Vous écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Alors, la question aujourd'hui, la violence envers les femmes, où en sommes-nous? Vous nous avez écrit beaucoup, ça vous parle, tout comme à moi d'ailleurs. Aujourd'hui, ce sujet, c'est vraiment d'actualité. On aimerait ça que ça soit plus d'actualité, puis ça soit en arrière, mais ça a l'air qu'il y a des petits pas, puis c'est à dose homéopathique, puis il faut bouger, puis il ne faut pas arrêter de bouger, de dénoncer, de dire, de parler. Mais parler, c'est difficile, c'est extrêmement difficile parfois. Depuis le début de l'émission, nos intervenants et intervenantes nous disent la même chose, hein. C'est ça le problème. C'est dur de parler parce que parfois, il y a la peur qui envahit. Alors, le numéro de téléphone, je vous avais dit que j'en parlerais, SOS Hébergement pour les femmes violentées. Je vais le donner tout au long de l'émission, 1-800-363-90-10. 1-800-363-90-10. Oui, un autre message sur Twitter. On a Nathalie Allary qui dit « La cybercriminalité et la misogynie, une fenêtre à observer. Hausse de la cybercriminalité et d'y réagir, en parler, c'est changer les choses dans notre société. » Alors, notre prochaine invitée, c'est une sexologue. Elle s'appelle Michèle Saint-Amand. Bonjour, Madame Saint-Amand.
Bonjour.
Comment vous réagissez à tant de violence, les commentaires qu'on a depuis le début de l'émission? Les gens nous parlent de la peur. En tant que sexologue, ça vous parle comment?
Ben, premièrement, je ne suis pas étonnée de ce que les gens disent parce qu'effectivement, même en 2014, il y a encore beaucoup de tabous, de préjugés entourant la violence faite aux femmes. Moi, comme sexologue, je travaille beaucoup avec les victimes d'agressions sexuelles. Oui. Qui fait partie des violences faites aux femmes. Mm-hmm. Sous toutes ses formes, ça va de l'inceste au viol, au harcèlement. Oui, c'est ça, il y a encore beaucoup de préjugés qui font effectivement que c'est difficile de dénoncer. Mm-hmm. Pour plusieurs raisons, la dame juste avant moi parlait du fait que la violence est souvent commise par des gens de l'entourage. Ouais. Donc, ce qui fait que la victime a d'autant plus de misère à dénoncer parce que il y a plusieurs peurs associées à ça. Donc, on parle d'autour de 70 à 85 % des cas d'agression sexuelle qui sont commises par quelqu'un qui est connu. Mm-hmm. Donc, membre de la famille, professeur, entraîneur, ami de la famille.
Proche, là. Ouais.
Donc, la victime porte un fardeau, en fait, qui... en théorie, ne devrait pas lui appartenir. Mais il peut y avoir ce souci-là de briser l'harmonie, de faire une espèce une vague, un impact majeur autour d'elle. Et c'est souvent le cas. Par contre, quand elle dévoile, le mot le dit, c'est qu'elle lève le voile sur un crime qui a été commis contre elle. Mm-hmm. Elle est la victime. Mm-hmm. Donc, ça a comme pas de bon sens qu'encore aujourd'hui, la victime porte ce fardeau-là et se sente coupable pour quelque chose qu'elle a vécu.
C'est ça, c'est comme la victime devient coupable, elle. C'est inverser les rôles complètement. C'est elle qui a subi et qui se sent coupable, finalement.
Exactement. Et il y a en fait une citation de Benoît Drou, qui est une féministe marquante, qui a dit, en fait, le viol reste le seul crime dont l'auteur se sent innocent et la victime honteuse. Et c'est pourtant vrai. Qu'est-ce qui fait que ça accroche encore et que on entend encore... Vous savez, quelqu'un qui dénonce va avoir peur de se faire poser la question... qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que tu portais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Qu'est-ce que tu aurais dû faire?
C'est complètement, excusez-moi de dire ça, mais je vais le dire, là, c'est complètement imbécile de poser ces questions-là. La femme vient de se faire violer, puis on essaye de lui dire, ah ben comment tu étais habillée? Ah, c'est ta faute, tu étais habillée comme ça. C'est fou, ça.
Oui, et ce que ça fait, c'est que ça enlève la responsabilité de l'agresseur. Mm-hmm. Alors que moi, comme sexologue, quand j'accueille une victime, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on travaille à remettre la responsabilité à 100% à l'agresseur. Mm. Même s'il n'y a pas, comme dans la majorité des cas, il n'y a pas de violence physique. C'est-à-dire, il n'y a pas de traces physiques. Mm. Et c'est ce qui fait que, bon, ben les victimes peuvent banaliser ça. C'était pas si pire. Il y en a d'autres qui ont vécu pire et tout. Mais généralement, ça se passe dans le chantage, la manipulation, la violence psychologique. Mmh. C'est tout un système, là. C'est pas un geste en parenthèse ponctuel.
Comment elles viennent, ces femmes qui ont été victimes de violences, les femmes qui ont été violées, comment elles viennent à vous et comment elles se sentent? Elles sont, on va prendre le premier rendez-vous. Est-ce qu'il y a des mots qui sortent? Est-ce qu'elles arrivent à parler? C'est comment les premières rencontres?
Bien, en fait, si elles se trouvent devant moi, c'est qu'il y a une partie d'elles qui souhaite aller mieux, qui souhaite reprendre du pouvoir sur sa vie. Mmh. J'ai envie de dire que si la personne vient dans mon bureau, elle a déjà fait une partie du travail qui est d'être devant le fait qu'elle a été victime de cette violence-là. Mm-hmm. Et souvent, elles viennent à moi, en fait, par exemple, une ligne d'écoute que je ne sais pas si vous avez donné la référence, mais je peux vous donner
ça,
le numéro de téléphone.
Je vais le prendre tout de suite. Donnez-moi le numéro de téléphone. Je vais d'ailleurs le répéter aussi, puis on va demander à notre équipe de le mettre sur le site. Oui, le numéro de téléphone.
Parfait. Donc, c'est un numéro sans frais au niveau du Québec. Donc, oui. C'est le 1-888-933-9007.
Parfait. Alors, donc, elles arrivent à travers cette ligne d'écoute?
Possiblement. Vous savez, une ligne d'écoute qui est anonyme, ça peut être le premier pas pour entamer un processus soit de dévoilement, de dénonciation ou de parcours personnel. C'est comme moins impliquant, moins confrontant. La personne se nomme pas nécessairement. Et bon, et ça peut être un premier lieu où est-ce que la personne va s'ouvrir et voir qu'elle est bien accueillie, qu'elle n'est pas jugée, et que c'est des personnes qui sont formées pour intervenir auprès des victimes d'agressions sexuelles. Il y en a d'autres qui peuvent passer par le CAVAC, par exemple, qui est le Centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Par cette voie-là, en fait, ils peuvent aussi leur parler de l'IVAC. Là, je vous donne beaucoup de références.
Mais c'est, de toute façon, on a besoin de tout ça, là.
Oui. L'IVAC, c'est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Et ce qui se passe, c'est que c'est pas tout le monde qui a les sous pour aller consulter en privé.
Mm-hmm. Et je vais revenir à ma première question. Oui. Une fois qu'on a fait tout ce processus, elles vous disent quoi? Vous avez dit qu'elles ont fait un pas parce qu'elles viennent me voir. Mais physiquement, elles se sentent comment? Est-ce qu'elles peuvent avoir des relations sexuelles ou elles ont perdu espoir? Elles se sentent sales? Elles se sentent comment?
Je vais toutes les réponses. Il y a vraiment une variété de réactions. Chaque personne a une expérience bien particulière. Et beaucoup des personnes que je vois dans mon bureau ont été victimes d'une agression sexuelle il y a longtemps.
OK.
Souvent dans la famille, donc souvent de l'inceste, et c'est à l'âge adulte qu'elles viennent consulter pour divers problèmes. Il y en a qui, oui, vivent des problèmes au niveau de leur sexualité. Et moi, le travail que je fais avec elles, c'est qu'on a un bout de chemin à faire avant de travailler au niveau de la relation sexuelle comme telle avec le ou la partenaire.
Faut réparer, hein?
Oui, exactement. Donc, si la personne porte une honte, si elle son estime d'elle-même, elle est affectée, toute la question de l'image corporelle aussi peut être affectée. La question de confiance, il y a des gens aussi qui peuvent vivre une reviviscence du traumatisme lors de relations sexuelles. Donc, comme si le passé faisait partie du présent.
Mm-hmm.
Alors, il y a tout ça qu'on peut travailler ensemble. Et tout ça, c'est dans l'optique, dans le fond, de il y a un mot en anglais là, qui est difficilement traduit. On parle d'empowerment.
Mm-hmm.
Donc, que la personne vraiment se reprenne en charge sa vie. Reprenne le contrôle. Parce que lors d'une agression, ben c'est ça qui s'est passé. Hein, quelqu'un a pris le contrôle sur sa vie à ce moment-là.
Oui. Alors, donc, on va donc répéter, vous avez un numéro de téléphone où on pourrait, où les victimes pourraient vous rejoindre? Ça serait le numéro que vous m'avez donné tout à l'heure en première ligne, c'est ça, le 933?
Oui, en fait, ça, c'est la ressource régionale, provinciale, pardon, au niveau des agressions sexuelles. Donc, si les gens veulent trouver un CALACS, un centre d'aide là dans leur région, c'est des services souvent gratuits ou vraiment à petit prix pour que ce soit accessible. Malheureusement, il y a souvent des listes d'attente parce que les ressources sont pas assez grandes pour le nombre, pour les besoins de la population. Donc ça, je vous dirais que c'est vraiment un numéro central où est-ce qu'on peut les diriger. Si, par exemple, elles ont eu une agression récente dans les 5 derniers jours, il y a des centres désignés reliés aux hôpitaux qui peuvent être donnés comme référence.
D'accord.
Donc je vous dirais que c'est vraiment une ressource complète par rapport aux agressions sexuelles.
Merci beaucoup, Michel Saint-Amand.
Ça me fait plaisir.
Au plaisir.